9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Patrick Cohen sur Europe 1.
Bonjour à tous. D'abord, dans l'attente des annonces du président Macron, les leçons de la crise des Gilets jaunes par un vétéran de la politique, l'ancien ministre UDF, ex-maire de Vichy, Claude Malhuret.
J'ai l'impression d'avoir plus appris au cours de ces 6 derniers mois qu'en 30 ans de vie publique. Pour tout dire, j'ai aussi entendu plus d'âneries en 6 mois qu'en 30 ans.
Claude Malhuret, cette semaine, à la tribune du Sénat, pendant que l'Assemblée nationale se déchirait sur la vente au privé d'aéroport de Paris.
Ce dont vous avez peur, c'est du peuple. Oui, vous avez peur. Et c'est très inquiétant. Ayez le courage de donner la parole à 44 millions d'électeurs, aux Français, qui sont les propriétaires de la Française des Jeux, qui sont les propriétaires d'aéroports de Paris.
Ce n'est pas votre motion de rejet préalable qui nous fait peur, Monsieur Corbière. Ce n'est pas votre projet de référendum d'initiative partagée qui nous fait peur, Monsieur Corbière. C'est vous.
Alexis Corbière et Bruno Le Maire à l'Assemblée. La privatisation des deux principaux aéroports français serait-elle une bonne affaire pour les finances publiques ou un mauvais coup pour le pays? Mon premier invité est candidat au rachat d'Orly et de Roissy. En tout cas, il voudrait en être actionnaire. C'est le président du département des Hauts-de-Seine, Patrick Devedjian, avec nous dans un instant. Cette semaine également, le pari réussi de Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien au pouvoir depuis 10 ans, va continuer d'imprimer sa marque dans la région. On en parle avec le journaliste et romancier Dov Alflon, correspondant à Paris du quotidien Haaretz. Au générique également, le directeur d'Arte, Bruno Patino, qui signe la civilisation du poisson rouge, parce que nous sommes tous des poissons rouges hypnotisés par les réseaux sociaux dont le modèle économique s'est construit sur cette servitude numérique. Bruno Patino a des idées pour en sortir. Et puis Boris Cyrulnik, le neuropsychiatre qui célèbre dans un nouveau livre le pouvoir de l'écriture, de la création artistique pour réparer des enfances fracassées, tourmentées ou orphelines, celles de Jean Genet, Georges Perec, Gérard Depardieu, Romain Gary ou la sienne, Boris Cyrulnik, invité de C'est arrivé cette semaine.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Avec Patrick Cohen sur Europe 1.
Bonjour Patrick Devedjian.
Bonjour.
Ça fait près d'un an que vous suivez ce dossier des aéroports au nom des Hauts-de-Seine et de l'ensemble des départements d'Île-de-France. Et puis soudain, sur ce projet de privatisation, une poussée de fièvre, une coalition d'opposants et une demande de référendum. C'est exagéré ou c'est justifié?
Je crois que c'est pas le sujet vraiment. Parce que le vrai sujet, c'est un sujet d'aménagement du territoire. L'État n'y pourvoit pas. En tous les cas, parce qu'il n'investit pas, les aéroports, les grands aéroports français, c'est la porte d'entrée du monde entier sur l'Europe. Et c'est bien que ça soit en France. Qu'est-ce qu'on va faire à cet endroit-là? L'État n'y met pas d'argent, parce qu'il n'en a pas. Et le secteur privé, il cherche une rentabilité. Donc ni l'un ni l'autre ne répondent finalement à l'intérêt de ces territoires.
Mais donc, vous trouvez que c'est un grand enjeu qui mérite un grand débat, voire un référendum national ou
non? Je pense que c'est une manière de s'opposer. Le référendum, d'abord, la procédure va durer longtemps et le processus de privatisation, si le gouvernement le veut, il va court-circuiter la procédure du référendum. 4,5 millions de signatures à recueillir, ça prend du temps.
Bon, mais alors vous dites la puissance publique, elle n'a pas les moyens d'investir. Mais est-ce qu'elle peut se désengager de la gouvernance d'une infrastructure aussi importante?
Non, justement, il faut trouver un équilibre entre un investissement qui doit permettre de recourir au privé parce que c'est le privé qui a de l'argent, et en même temps une exigence de l'intérêt général, de l'intérêt public, qui doit être protégé par une présence de la puissance publique. Et on devrait faire ce qu'on fait à peu près partout dans le monde, y compris en France d'ailleurs, à l'exception de la région parisienne, un mixte de l'investissement privé et d'une présence des collectivités territoriales. Si vous regardez les aéroports de la région parisienne, il y a 6 700 hectares de foncier. Qu'est-ce qu'on va faire de ces 6 700 hectares de foncier? C'est considérable. Nous sommes dans le territoire le plus dense de toute l'Europe. Un investisseur privé qui fera purement du privé, il va chercher la plus grande rentabilité. Et l'aménagement, ça risque d'être dangereux. Par exemple, à Orly, vous avez un couvre-feu à 23 heures. Si vous le portez à 24 heures, vous avez une meilleure rentabilité. L'investisseur privé va courir là-dessus. Oui. Mais la population qui vit autour, elle n'est pas du tout prête à accepter ce genre de choses.
Oui, mais ce n'est pas le repreneur qui va décider des horaires du couvre-feu.
Oui, enfin, il va faire pression quand même. Il va être là parce que plus il va payer cher, plus il va demander le retour sur son investissement.
Oui.
Donc, notre proposition, c'est que les 7 départements soient au conseil d'administration à côté d'investisseurs privés et donc est un pacte de blocage, c'est-à-dire 30% à peu près du capital. Et ainsi, on peut garder cet équilibre. On peut avoir et l'argent et la défense de l'intérêt général.
Bon, ça c'est votre proposition, Patrick de Védjian, mais il me semble que la droite dont vous êtes issu répète depuis des années qu'il faut réduire le périmètre d'intervention de l'État, qu'on ne pourra pas réduire notre niveau de dépenses publiques sans abandonner certaines missions. Vous ne le pensez plus ?
Ça dépend. Pourquoi ? Je veux dire qu'il y a de grands moyens de réduire la dépense publique, beaucoup plus sérieusement. Écoutez, j'ai observé que, par exemple, l'affaire des Gilets jaunes, l'argent s'envolait à cette occasion.
Oui, 10 milliards en 10 minutes.
Bah oui, justement. Donc, quand on nous explique, l'endettement de la France, c'est plus de 2000 milliards. La privatisation d'ADP, c'est une goutte d'eau dans la mer de l'endettement.
Je vous ai lu dans l'opinion, vous tenez chronique, le 19 décembre dernier, l'État est le plus mauvais des gestionnaires.
Oui, il est le plus mauvais des gestionnaires parce qu'il ne peut pas investir. Or, évidemment, quand vous avez un équipement comme les aéroports, il y a une concurrence mondiale, évidemment, sur ce point, et il faut investir. L'État français, il ne peut pas.
Bon, et le symbole, non. Vous êtes le symbole de l'aéroport, de la porte d'entrée en France, de Charles de Gaulle aussi. Est-ce que vous êtes un gaulliste qui ne veut pas qu'on privatise Charles de Gaulle ?
Non, mais je ne suis pas contre la privatisation. Encore une fois, elle doit simplement être équilibrée. Est-ce que c'est possible dans ce pays de jamais passer d'un extrême à l'autre ? Le tout État ou le tout privé ? Bon. On peut aussi trouver des solutions intermédiaires qui respectent de grands équilibres.
Est-ce que vous regrettez d'avoir voté la concession des autoroutes en 2006.
En tout cas, je regrette la manière dont ça s'est fait, évidemment, parce que les autoroutes privatisées sont mieux gérées que les autoroutes d'État. Quand vous regardez les autoroutes de l'État, franchement, ils ne sont pas en bonne situation. Ils ne sont pas en bon état, justement. Mais en même temps, l'intérêt général ne s'y retrouve peut-être pas toujours.
Patrick de Védjian, président du conseil départemental des Hauts-de-Seine. Vous restez avec nous quelques minutes, encore quelques questions avant d'accueillir Boris Cyrulnik et Bruno Patino.
Europe 1, 9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Europe 1. Jusqu'à 10h, vous écoutez C'est arrivé cette semaine avec Patrick Cohen sur Europe 1.
Avec Patrick de Védjian, ancien député, ancien ministre, président du département des Hauts-de-Seine depuis 12 ans, depuis l'élection à l'Élysée de Nicolas Sarkozy, à qui vous avez succédé. Claude Malhuret, qu'on a entendu dans le sommaire et qui a à peu près la même longévité politique, disait qu'il n'avait jamais autant appris dans cette crise des Gilets jaunes et jamais autant entendu de conneries. Enfin, même s'il ne disait pas conneries. Vous, qu'avez-vous appris, Patrick de Védjian ?
Je suis assez d'accord avec Claude Malhuret. Bon. Non, ce que j'ai appris, c'est au long de ma carrière politique, c'est qu'on est dans un processus où d'abord l'État est de plus en plus prégnant sur la vie de chaque individu. Ça rejoint l'histoire des poissons rouges quand même. Mais l'État a de plus en plus de moyens d'investiguer, de contenir la vie individuelle et où, en même temps, la centralisation se fait de plus en plus rigoureuse. Et donc, il y avait le livre de Gravier dans les années 50, Paris et le désert français. Ça n'a pas changé, ça s'est plutôt aggravé.
Bon, ce que vous avez entendu, c'est plutôt la sagesse du peuple ou la démagogie de certains de ses porte-parole ?
Les deux. J'ai entendu, au moment où la France atteint le record du monde des prélèvements obligatoires, parce que c'est quand même le cas, on a une révolte fiscale. C'est pas vraiment une surprise. Franchement, il n'y a pas besoin de grandes études sociologiques pour s'apercevoir qu'il y avait des causes à cela. Bon, et en même temps, on a une dépense publique qui est exorbitante et souvent inconsidérée. Parce que je prends l'exemple des Hauts-de-Seine, par exemple. Dans mon département, la rive droite est gérée par Port de Paris, AROPA. La rive gauche est gérée par VNF, Voie de Navigation de France.
Et bon, alors, laquelle est mieux ?
Vous trouvez, aucun des deux. Ils sont tous les deux dépourvus de moyens. Ils n'investent pas ni l'un ni l'autre. Et finalement, ils essayent de justifier leur existence par une réglementation tatillonne qui paralyse plutôt l'initiative. Donc, et là, on dépense quand même de l'argent. Bon, c'est l'État. C'est l'État sous toutes ses formes qui prend son emprise sur la société civile. Donc, qu'il y ait une révolte de la société civile, on peut le comprendre.
Lundi ou mardi, le président va reprendre la parole et tenter de montrer que les citoyens ont été entendus. Exercice difficile,
très
impossible.
Très difficile et surtout exercice pratiquement obligatoirement contestée, puisque dans le flux des cahiers de doléances, qui eux n'avaient pas porté chance à Louis XVI, hein, je rappelle quand même, dans le flux des cahiers de doléances, il y a tout. À boire et à manger. Donc on va extraire un certain nombre de choses et ce que, qui ne sera pas extrait laissera des frustrations.
Et j'ai lu ce reproche dans l'une de vos chroniques dans l'Opinion. S'être proclamé et de droite et de gauche, c'est bien dangereux car en cas d'échec, c'est et l'extrême droite et l'extrême gauche qui deviennent l'alternative. Nous y sommes presque, Patrick Devedjian.
On n'y est pas encore, mais on les voit monter toutes les deux, l'extrême gauche et l'extrême droite, et c'est préoccupant. Donc, évidemment, le résultat, c'est qu'on ne peut que souhaiter le succès de M. Macron, mais c'est dangereux de ne pas avoir de solution de rechange, et le clivage droite-gauche, les deux rives du fleuve républicain, c'était quand même un moyen de garantir la liberté.
Merci Patrick Devedjian, président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, d'être venu ce matin en direct sur Europe 1.
Europe 1.
Dans un instant, la servitude numérique et les moyens de s'en affranchir par Bruno Patineau et le pouvoir de l'écriture pour des enfants fracassés par Boris Cyrulnik. A tout de suite.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine. Europe 1.
C'est arrivé cette semaine, continue jusqu'à 10h avec vous, Patrick Cohen.
Bonjour Bruno Patineau, directeur éditorial d'Arte, vous avez été un pionnier du numérique au Monde, à France Culture, à France Télévisions, vous avez cru au web, vous l'avez rêvé comme un espace d'échange, de liberté, d'intelligence collective, ce qu'il est encore en partie, mais c'est aussi le domaine du harcèlement, des fausses nouvelles, des effets de bulle et de cloisonnement, et surtout, c'est l'objet principal de votre livre, de la servitude numérique. Pourquoi les écrans nous hypnotisent? Pourquoi les réseaux nous emprisonnent? Cela résulte, dites-vous, d'un modèle économique voulu, pensé par les plateformes. Vous allez nous expliquer. D'abord ce titre, La civilisation du poisson rouge, c'est un calcul de Google. Le poisson rouge serait incapable de fixer son attention plus de 8 secondes, et pour un adolescent, c'est 9 secondes, c'est un vrai calcul ?
Oui, en tout cas, c'est un calcul que Google a présenté lors d'une petite conférence à laquelle je participais.
Donc la scène que vous racontez du début du livre est vraie. Vous avez vraiment vu un dirigeant de Google expliquer fièrement qu'il avait fait ce calcul sur le poisson rouge et sur l'adolescent.
Non pas un dirigeant, mais un ingénieur. Et oui, la scène est tout à fait vraie, évidemment. L'ingénieur le présentait comme un défi supplémentaire pour Google, c'est-à-dire qu'à mesure que l'attention est de plus en plus courte, il s'agit de trouver des outils pour arriver à la capter, parce que c'est de plus en plus difficile de la capter. Et donc lui le voyait comme un défi, et moi je l'ai perçu comme une catastrophe, d'autant plus qu'elle renvoyait à certains comportements qui sont les miens, mais que j'observe partout, c'est-à-dire croire qu'on peut passer de son smartphone alors qu'on ne peut plus, vivre une vie de famille, de couple, d'études, de travail haché par les sollicitations numériques dont on croit qu'elles libèrent dans un premier temps et qui finalement agissent sur nous comme des stimuli qui nous font changer d'idée en permanence.
Oui, vous produisez une étude qui tente à montrer que notre santé mentale est affectée par ces 30 minutes d'utilisation quotidienne des réseaux sociaux. 30 minutes seulement. Autre chiffre effarant dans votre livre, 30% des utilisateurs de Facebook décrochent d'une vidéo avant la quatrième seconde.
Oui, bien sûr, ça c'est une statistique que tout le monde connaît. Mais
je l'ai découverte.
En tout cas, c'est une statistique qui est, puisque la plupart du temps, Facebook propose des statistiques à 3 secondes, à 10 secondes, pour bien montrer la difficulté à amorcer l'attention en permanence, ou plutôt à la retenir. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'au-delà même des vidéos, c'est l'architecture même de ces plateformes et de ces services qui sont faites avec l'aide des sciences cognitives pour justement attirer de plus en plus notre attention et nous rendre dépendants. Moi, je continue à croire au numérique, mais je constate quand même ma propre dépendance et surtout la dépendance de tous ceux qui m'entourent.
Cet asservissement tient à nous-mêmes, c'est-à-dire que nos cerveaux sont ainsi faits qu'ils sont conditionnés par un système de récompense aléatoire. C'est la fameuse boîte de Skinner du nom de ce professeur de Harvard qui faisait des expériences avec des souris dans une cage et un levier. Vous nous le résumez,
alors,
Bruno Patineau.
Alors c'est très difficile de l'expliquer face à Boris Cyrulnik, mais je vais quand même y essayer. Donc en gros, vous mettez une souris dans une cage en verre et vous lui proposez d'appuyer sur un bouton. À chaque fois qu'elle appuie sur un bouton, elle reçoit de la nourriture, tout va bien. Et donc elle appuie sur le bouton à chaque fois qu'elle a faim parce qu'elle maîtrise la machine. Et puis vous changez les règles du jeu. Et de temps en temps, la nourriture tombe. Et de temps en temps, la nourriture ne tombe pas lorsqu'elle appuie. Et à ce moment-là, la souris commence à appuyer frénétiquement sur le bouton, même quand elle est rassasiée. Eh bien, ce mécanisme de récompense aléatoire, qui est à la base des machines à sous dans les casinos, par exemple, c'est ce qui sous-tend, c'est même ce qui structure le graphisme d'un très grand nombre d'applications, qui peuvent être Candy Crush, qui peuvent être Tinder, qui peuvent être Facebook. De temps en temps, ça vous propose quelque chose de formidable. De temps en temps, ça vous propose quelque chose de totalement dérisoire. Vous ne savez pas si vous allez être confronté au meilleur pour vous, au désirable pour vous ou au pire. Et du coup, ça provoque un certain asservissement par rapport à ces applications.
Ce qu'on appelle, ce que vous appelez la captologie ou l'économie de l'attention. Bon, l'un de vos prédécesseurs à la télé avait appelé ça du temps de cerveau disponible. Ça revient au même, non?
Ça revient au même, mais plus du tout pareil. D'abord, la captologie, je suis pas l'inventeur du terme. Il faut savoir que c'est un laboratoire au cœur de Stanford, de la Silicon Valley, dirigé par un monsieur qui s'appelle B.G. Fogg, qui s'appelle le Persuasive Lab, et qui se prétend comme l'inventeur de cette science, c'est-à-dire utilise les neurosciences pour essayer de dessiner des outils numériques qui, justement, petit à petit, nous rendent accros à eux. Et oui, bien sûr, les médias, et surtout les médias audiovisuels, ça a toujours essayé de capter l'attention des gens. Mais il y avait deux différences par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. La première, c'est que vous ne les emmenez pas partout. Et donc, ça ne conquiert pas du temps sur du temps utilisé à autre chose. Et donc, ce qui se passe avec les outils numériques, c'est qu'évidemment, comme vous les emportez au travail, à l'université, partout, dans un repas familial ou ailleurs, eh bien, petit à petit, ça essaye de capter votre attention, alors même que ce temps, au départ, est destiné à autre chose. La deuxième différence, c'est une raison d'efficacité, évidemment. Quand vous êtes dans un média, entre guillemets, de masse, vous essayez de capter l'attention de tout le monde, ou au moins d'une grande multitude de personnes. Donc, si j'ose dire, vous êtes comme un artilleur qui tire un peu au hasard. Lorsque vous êtes dans les outils numériques, avec les algorithmes et les données personnelles qui sont présentes et que vous arrivez à mettre en réseau pour mieux les utiliser, alors ce qu'il se passe, c'est que vous êtes quelqu'un qui peut, j'allais dire, avoir une très très grande efficacité, une très grande précision dans la façon de capter votre attention à vous, Patrick Cohen, ou à moi.
Et efficacité publicitaire, évidemment, parce que c'est un modèle qui génère des milliards de recettes publicitaires. Vous citez le chiffre, 90 milliards de dollars, 45% de l'ensemble des revenus publicitaires américains sont absorbés par le numérique, et la moitié, je crois, c'est pour Google et Facebook. Hein.
Oui, parce qu'en fait, si vous voulez, il ne faut pas croire
qu'il y a publicités ciblées.
Un déterminisme technologique, vous avez mentionné qu'on avait été nombreux à travailler dans le numérique, et moi je continue à y croire. Cette économie de l'attention qui développe notre propre servitude à ces objets n'est pas le résultat du déterminisme technologique. C'est juste qu'à un moment donné, ces plateformes qui nous proposaient un service, c'est-à-dire qui nous proposaient de nous mettre en relation ou de nous faire découvrir des choses, ont dû trouver un modèle économique. Et le modèle économique qu'ils ont choisi à ce moment-là, c'était clairement un modèle économique publicitaire. Et c'est un modèle économique publicitaire qui vise donc à se rémunérer sur la viralité, l'attention, le taux de clic de ce que vous faites dans les plateformes. Donc, qui vise à se rémunérer par votre intensité d'utilisation de ces outils-là.
Méthode développée chez Google et importée chez Facebook par
Sheryl Sandberg, voilà, en 2008, où il y a un basculement. Google, au départ, est un moteur de recherche, et puis à un moment donné, pour des raisons de capitalisation boursière, il faut trouver un chiffre d'affaires. C'est l'apparition de la publicité ciblée, c'est l'apparition de l'enjeu d'avoir de l'attention individuelle d'une personne, et Facebook importe ça en 2008.
Alors, il y a beaucoup d'aspects passionnants dans votre livre, Bruno Patino, évidemment aussi dans le domaine de l'information qui est le vôtre. Je rappelle que vous êtes aussi le doyen de l'école de journalisme de Sciences Po. Vous montrez pourquoi l'indignation, la colère, l'émotion, les fausses infos seront toujours plus fortes que les vraies.
En tout cas, dans ces plateformes-là, vous savez, il y avait une notion américaine qui parlait du marché libre des idées. Et Thomas Jefferson disait « C'est très bien que le mensonge et la vérité puissent cohabiter, parce qu'à la fin, dans ce marché libre des idées, c'est la vérité qui triomphe. »
C'est le principe du premier amendement de la Constitution américaine.
Or, dans ces plateformes-là, pour des raisons d'efficacité économique, tout ce qui est outrancier est favorisé. Pour deux raisons. La première, c'est que ça fait appel à vos émotions, donc vous cliquez dessus beaucoup plus vite, vous le partagez beaucoup plus vite, parce que la colère, le rire, l'indignation, l'outrance se partagent beaucoup plus rapidement qu'une information rationnelle que vous aurez mis du temps à comprendre. La deuxième raison, c'est que c'est beaucoup moins cher à produire. une information rationnelle et raisonnée, ça met du temps à produire et ça coûte cher. Alors qu'un message outrancier, ça va très très vite. Et donc, il y a un déséquilibre de nature dans la circulation d'une information rationnelle et d'un message outrancier sur ces plateformes-là. Et donc le free market of ideas, le marché libre des idées, est un marché sur ces plateformes-là par nature déséquilibré.
Alors pardon Bruno Padino, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez un neuropsychiatre face à vous. Bonjour Boris Cyrulnik. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce que vient de dire Bruno Padino, que évidemment vous connaissez en grande part pour ce qui est de... des sciences du comportement, mais des effets produits. D'abord, cette addiction et cette rapidité, ce manque d'attention, ça rend abruti, ça rend débile, non, de regarder des vidéos 4 secondes et de passer à autre chose, non?
Non, ça hypnotise.
Ça hypnotise.
C'est-à-dire que ça remplit le monde d'une information et ça coupe le monde des autres informations qu'on ne traite plus, qu'on ne perçoit plus.
L'effet de bulle.
On est fasciné, on est hypnotisé, on vit dans un monde pauvre et hyper puissant. Exactement ce que vous avez expliqué. Et ça remonte, ça correspond parce que probablement ça utilise un mécanisme physiologique, c'est-à-dire c'est la brillance des yeux. Quand un bébé arrive au monde, il est accroché par le regard de sa mère et les saccades oculaires. Si sa mère le regarde, il tète. Si sa mère regarde ailleurs, la télévision, il arrête, ou son smartphone, il arrête de téter. C'est-à-dire que c'est quelque chose de profondément inscrit dans notre système nerveux que la technologie utilise de manière un peu idéologique ou marchande.
Bonjour Patino, vous pensez que tout n'est pas perdu, qu'on peut imposer aux plateformes une négociation sur leurs algorithmes de captation?
D'abord, ce que je crois, moi j'ai écrit ce livre à la fois pour m'alerter moi-même, si j'ose dire, et pour alerter tout le monde, c'est-à-dire qu'en gros... le constat de notre propre dépendance. C'est-à-dire qu'on pense qu'on peut s'en passer, et finalement on ne peut pas s'en passer. Mais tout n'est pas écrit. Et d'ailleurs, vous avez, il y a un chapitre qui parle des repentis de la Silicon Valley, c'est-à-dire non seulement ces gens qui changent leur comportement en ne mettant pas leurs enfants dans des écoles connectées, mais qui en plus commencent à quitter des entreprises et des fonctions très rémunératrices pour recréer un Internet, j'allais dire, moins marchand et plus libre. Oui, je pense qu'on le peut par deux grandes directions. La première, c'est une direction, j'allais dire, collective et individuelle, que j'appelle la guérison. C'est-à-dire, je pense sincèrement que dans plusieurs années, on verra comme quelque chose de totalement naturel, le fait d'avoir des endroits sans connexion, le fait d'avoir des applications sociales qui vous... permettre de partir en vacances.
Et dans les espaces privés, des espaces où...
Et des espaces absolument sacrés. Et donc, dans ce mécanisme d'éducation collective, on verra effectivement qu'on arrive, on arrive à se déprendre de cet instrument. Et par ailleurs, je ne crois pas du tout à l'autorégulation des plateformes, mais je crois à la régulation. Je crois vraiment qu'on peut les amener à discuter, pas seulement sur la régulation fiscale ou la transparence des données, ça c'est important, mais que le dernier volet qui nous manque, c'est l'effet qu'elles font sur nos vies.
Merci Bruno Padino. La civilisation Merci. Du poisson rouge vient de paraître chez Grasset. C'est un très bon livre et j'ai eu le plaisir d'y trouver ce mot délaissé, assuétude, qu'on nomme en franglais addiction. Si vous montez un club pour populariser l'assuétude contre l'addiction, j'en serai.
Europe 1.
Dans un instant, on va retrouver Boris Cyrulnik, la résilience des écrivains. Cette fois la nuit, j'écrirai des soleils.
Europe 1.
9h, 10h. C'est arrivé cette semaine.
Europe 1. Chaque samedi, de 9h à 10h, on vous retrouve, Patrick Cohen, pour C'est arrivé cette semaine.
Avec Boris Cyrulnik, qui dans son nouveau livre nous parle à nouveau de résilience et d'enfance fracassée, mais en convoquant des écrivains ou artistes célèbres, entre autres Jean Genet, Georges Perec, Romain Gary, Gérard Depardieu et vous-même, Boris Cyrulnik, parce qu'à 14 ans, vous rêviez d'être écrivain, vous étiez même trouvé un pseudonyme. Qu'à 10 ans, vous avez commencé à écrire. Qu'à 6 ans, vous avez été arrêté par la Gestapo. Et qu'à 4 ans, vous avez vu vos parents disparaître, partir en déportation. Qu'est-ce qui relie ce drame personnel à cette envie d'écriture et ce besoin de créer?
Quand on vit dans un monde vide, si on ne le remplit pas, on est devant le gouffre de l'angoisse. Donc le fait de remplir soit avec des mots s'il y a quelqu'un, soit avec des mots parlés s'il y a quelqu'un, soit avec des mots écrits s'il n'y a personne. C'est-à-dire que l'écriture permet de remplir le monde de la perte, le monde du manque. Georges Perec raconte très clairement que ses parents ayant disparu, ils ne sont pas morts, ils ont disparu. ses parents ayant disparu, il est à l'âge de 8 ans, il a envie d'écrire pour leur offrir une sépulture. Et la sépulture de ses parents sera le livre qu'il va leur consacrer.
La disparition qui n'est pas étranger à la disparition de ses parents, mais il ne l'a expliqué qu'après coup.
C'est ça, oui. C'est un livre écrit sans la voyelle « e » qui désigne « e, mes parents disparus ». Donc c'est la plus belle explication de la contrainte à écrire quand le monde est vide. Mais ça ne veut pas dire que quelqu'un qui n'a pas un monde vide, il peut aussi écrire, mais ça ne sera pas le même style, ça sera moins intense, ça sera moins pimenté, mais ça sera peut-être intéressant.
Est-ce qu'il peut y avoir aussi le besoin de se créer une identité? Je parlais tout à l'heure du pseudonyme que vous étiez imaginé en rêvant d'être écrivain à 14 ans, Boris Odige, mais vous aviez eu un autre nom aussi comme enfant caché des nazis, c'était Jean Laborde.
Oui, mais ce nom me cachait, c'était pas un pseudo. Le pseudo révèle ce qu'on a envie d'être, ou ce qu'on a envie de devenir. Alors que Jean Laborde, c'est le nom qui m'a permis de ne pas mourir. Si j'avais, pendant la guerre, on me disait « si tu dis ton nom, tu mourras, et ceux qui t'aiment mourront à cause de toi ». Donc c'est un nom difficile à porter, il fallait que je le répare. Alors que Boris Orige, c'est le libérateur des esclaves dans la Rome ancienne. Et je me disais, mais quand je serai grand, je libérerai les esclaves, je volerai au secours des Africains. Donc j'avais ce désir. Orige révélait une partie de mon monde alors que Jean Laborde me cachait. Mais ce n'était pas moi, il n'exprimait rien de moi.
Alors on est frappé, vous êtes frappé, Boris Cyrulnik, par la fréquence de l'orphelinage ou des séparations précoces dans les populations créatives. Sur 35 écrivains français des plus célèbres du 19e siècle, 17 ont subi la perte, mort ou séparation d'un ou des deux parents. Balzac, Nerval, Hugo, Rimbaud, Dumas, Maupassant, Vigny, Baudelaire, etc. Au 20e, c'est aussi vrai. Beaucoup d'exemples. Est-ce que ça permet d'en tirer une règle ou une généralité? Et est-ce qu'il suffit d'écrire pour ne plus être malheureux?
Alors, ça permet d'en tirer une règle que les enfants préverbaux ont découvert. C'est-à-dire qu'ils sont dans un monde où la seule référence sécurisante, c'est leur mère. Leur mère, inévitablement et nécessairement, doit s'absenter. Donc, ils sont seuls au monde. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent tout de suite un papier, un crayon, ils dessinent, et ils s'imaginent, quand maman reviendra, je lui donnerai, ça sera la fête affective. Ils remplissent leur monde intime avec un dessin, avec une imagination, parce que leur mère n'est pas là. Si leur mère n'est jamais là, le cerveau s'éteint. Si leur mère est toujours là, ils ne sont pas stimulés, ils ne sont pas invités à la création. Donc il faut qu'elle soit là et qu'elle ne soit pas là. Et au moment où elle n'est pas là, ils sont contraints, fortement invités à la création. Donc même raisonnement plus tard quand on parle, ou bien on a quelqu'un avec qui parler, pour qui parler. Dans ce cas-là, il y a une interaction, mais la parole parlée n'a pas du tout le même effet que la parole écrite. Dans la parole parlée, il y a une interaction. Par exemple, là, je suis en train de parler, vous êtes en train d'hocher la tête. Donc, vous m'encouragez à continuer. Oui. Vous souriez, donc vous m'encouragez encore plus à continuer. Encore plus à continuer. Alors que dans la parole écrite, c'est pas du tout pareil, il n'y a pas d'interaction. Il y a une relation imaginaire. J'écris pour celui, celle, qui bien sûr sera le lecteur, la lectrice parfaite, qui saura me comprendre. Donc ça crée un monde, et ce monde-là, que je remplis avec des mots écrits, me comble, puisque sinon je serais contraint à l'angoisse. Donc c'est une très forte invitation, et ensuite on agence les mots, on ne ment pas, mais on va chercher les mots, les images, qu'on agence pour en faire un récit qu'on adresse à un lecteur imaginaire.
Parmi ceux qui parcourent ce vagabondage littéraire, il y a Jean Genet, que vous avez bien connu. Il y a aussi Gérard Depardieu, qui, comme Genet, a été un voyou, et qui dit, il l'a dit récemment dans un livre, « J'ai eu une enfance formidable ». Vous pensez, Boris Cyrulnik, que ses frères et sœurs ne croient pas du tout, eux, qu'ils ont eu une enfance formidable. Pourtant, c'était la même à Châteauroux.
Les enfants sont déjà des petits interprètes du monde, c'est-à-dire qu'ils donnent un goût au monde qu'ils perçoivent. Et Jean Depardieu, qui vivait dans un milieu pauvre en parole, n'était pas pauvre en affection, n'était pas pauvre en action. Si bien que ses frères et ses sœurs n'ont pas eu le talent de Jean Depardieu, qui n'a pas écrit, mais qui a emprunté les mots des autres, comme dans Cyrano de Bergerac. C'est-à-dire qu'il récite les mots des autres et il remplit son monde avec les mots des autres. alors que beaucoup de comédiens font ça. Et quand on a un malheur et qu'on ne peut pas le dire parce que c'est angoissant ou parce que ça va vous angoisser, que vous me faites taire, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va chercher un comédien, un roman, un film, et on dit à notre enfant, va voir ce film, on en parlera. C'est la fonction du théâtre grec, qui était une fonction démocratique, où les comédiens devaient jouer les problèmes de la cité, on bouclait les portes, et les citoyens devaient se disputer pour commenter les problèmes de la cité. Donc il y avait l'art avait déjà une fonction démocratique et une fonction d'échange. On n'était bien sûr jamais d'accord, mais la démocratie était possible. Alors que quand il y a... ou bien c'est le vide, c'est l'angoisse, c'est la mort psychique, ou bien c'est la dictature. C'est-à-dire qu'il y en a un seul qui dit la vérité, c'est le chef religieux, le chef idéologique, parfois aussi le chef scientifique, qui sont aussi bien doués pour la dictature. Mais dans ce cas-là, il n'y a qu'un seul récit. Il n'y a pas de débat. Il n'y a qu'une récitation, c'est-à-dire l'arrêt de la pensée. Donc je pense que la contrainte à l'écriture, l'invitation à l'écriture, c'est une forme de liberté.
On peut être sauvé par les mots, s'il en fallait la preuve. Il y a ce livre magnifique, « La nuit, j'écrirai des soleils ». Ça vient de paraître chez Odile Jacob. Merci beaucoup, Boris Cyrulnik, d'être venu nous en parler ce matin. Et dans un instant, les élections israéliennes, le nouveau triomphe de Netanyahou vu par le journaliste et romancier Dov Alfon. A tout de suite.
Europe 1. Jusqu'à 10h, vous êtes avec Patrick Cohen pour C'est arrivé cette semaine sur Europe 1.
Bonjour Dov Alfon.
Bonjour.
Journaliste et militaire, journaliste après avoir été militaire?
Ah oui, quand même, oui, absolument. Je suis un ancien officier de renseignement d'une unité de renseignement israélienne qui s'appelle Unité 8200.
Voilà, et c'est l'un des rares pays, Israël, où on peut avoir, on peut être journaliste
vous savez, pour moi,
et romancier après avoir été militaire.
Ça ressemble beaucoup, c'est-à-dire le vrai problème est une quantité d'informations. Et comme journaliste ou comme espion, et vous devez décider par vous-même laquelle est importante et quel angle lui donner. C'est donc ce que vous faites, en fait, actuellement.
J'avais jamais considéré les choses comme ça, mais maintenant que vous me le dites, on va y songer. Vous publiez un roman, premier roman d'espionnage et roman policier, Unité 8200, où il est question en un peu plus de 24 heures entre Paris et Tel Aviv d'une course-poursuite entre des tueurs chinois et un hacker israélien d'origine russe. Et ça paraît chez Liana Levy Dov Alfon. Les élections israéliennes ont vu à nouveau la victoire de Benjamin Netanyahou avec un peu plus de 26% des voix pour le Likoud. Netanyahou au pouvoir depuis 10 ans maintenant dans son pays. Qu'est-ce que ça dit de votre pays?
D'abord, ça dit que Netanyahou, comme presque tous les Israéliens, comprend très bien les nouveaux médias, la technologie et je dirais l'influence qu'il peut en tirer. C'est d'un cynisme parfait. Et on voit bien qu'il a dans son entourage des anciens de l'unité 8200, comme beaucoup d'autres d'ailleurs hommes politiques au monde. Rappelons d'abord que l'un de ses premiers grands coups, il n'y a même pas 3 semaines, ça a été de prétendre que son concurrent principal, l'ancien général Benny Gantz, s'était fait pirater son téléphone par des espions iraniens et qu'il y avait là-bas des choses compromettantes privées que Netanyahou, dans sa noblesse d'esprit, n'allait pas révéler au public. Donc, c'est faux. On ne peut pas le prouver. On ne peut pas ne pas le prouver. Les Iraniens, bien sûr, ne vont rien dire. Et c'est à force de coups, on pourrait en citer une liste, hein, qu'il fait d'abord une méthode de frayeur. Si je ne peux pas être aimé, je veux être craint. Et après, il y a toujours sa base politique très présente et qui a répondu, encore une fois, en mettant vraiment son nom, bien qu'ils en ont marre eux aussi, ils le préfèrent à l'inconnu. C'est ça.
Quel est l'adjectif qui lui convient le mieux?
Cynique. Pour moi, c'est l'un des plus grands cyniques de cette terre. Quand on lui parle, d'entretiens qu'il donnait les années précédentes et qu'il recommence à donner. On peut discuter avec lui de 3 heures à 4 heures. Il a fait les meilleures études dans les meilleures universités américaines. Il a, je crois, plusieurs diplômes. D'anciens professeurs de Harvard se souviennent de lui. Et par contre, il joue le populiste de droite, anti-intellectuel, anti-études, anti-université. C'est d'un cynisme parfait. Ce qui est effrayant, c'est que ça marche. Et c'est une leçon, je pense, pour d'autres pays démocratiques. C'est ça qui me semble intéressant. Parce que c'est vrai que la situation sécuritaire, droite-gauche israélienne est particulière, mais on voit bien que ses atouts dans le monde, ses amis, Poutine, Trump, même au Brésil, puisque le président
est venu jusqu'en Israël, oui.
C'est présent parmi nous, c'est lié directement à tout ce que nous venons de parler, et ça marche, Netanyahou en est la preuve.
Le pays d'aujourd'hui, Israël d'aujourd'hui, est très différent de celui d'il y a 10 ans, quand Netanyahou est arrivé, c'était la deuxième fois, mais quand il est revenu pour cette longue période au pouvoir.
Je pense qu'on peut dire oui. Il l'a formé, ou plutôt déformé. On voit bien que les travaillistes, qui sont les fondateurs de ce pays, avec les kibbutzim, tous ces mythes sionistes fondateurs, se sont effondrés avec, je crois, 6 sièges sur un parlement de 120. Donc c'est vraiment l'Israël de Netanyahou. Et on voit difficilement qui pourrait remplacer cette addiction, cette assuétude des Israéliens au tout sécuritaire à une droite qui est de plus en plus populiste.
Et de plus en plus religieuse aussi.
Et en plus, on a de plus en plus religieuse qui n'est pas contrebalancée par les Palestiniens d'Israël, donc les Arabes israéliens, qui ont une carte d'identité israélienne, qui ont apparemment tous les droits, mais qui se sentent, bien sûr, ostracisés, et donc qui ne votent pas. Et cette fois-ci, c'est flagrant, puisqu'il y a 20%, je crois seulement, de participation aux élections chez les Palestiniens d'Israël, et ce qui, bien sûr, laisse la voie libre à la droite israélienne.
Merci beaucoup, Dov Alphon, de nous avoir éclairé quelques minutes sur le résultat des élections en Israël. Unité 8-200 chez Liana Levy. C'est un roman à la fois d'espionnage et un roman policier. Merci à vous.
Retrouvez C'est arrivé cette semaine tous les samedis de 9h à 10h sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.